un ensemble de réflexions sociologiques ou directement issues des sciences sociales que vous produisez ou que vous avez, dont je vais être très très ignorant. Et je vais me placer et me situer tout de suite à un autre endroit, mais je ne demande pas mieux que d'apprendre et que ma défiance assez spontanée et assez viscérale, mais c'est peut-être certains collègues qui me conduisent devant un usage de la sociologie dès qu'il est dès qu'on est dans le champ esthétique. Voilà, je ne demande pas mieux que de faire mon autocritique à la fin de la séance. La deuxième chose sur... tu as dit neveu Marx, X pareil. Oui, parce que c'est de cet endroit-là dont j'essaye de parler, d'où j'essaye de parler. Je suis marxiste. Alors, généralement, quand on dit « je suis marxiste », tout de suite après, il y a 12 000 excuses pour expliquer qu'on n'est pas un marxiste orthodoxe, il y a 1000 marxismes, etc. Donc oui, je fais partie des 1000 marxismes. J'essaye d'appartenir à un courant marxiste, hétérodoxe, le courant chaud du marxisme, et pour le dire, pour donner un nom, d'être dans la filiation théorique d'un militant et d'un philosophe qui était prof ici, qui était Daniel Ben Saïd, et ça m'importe que ce soit aussi un militant, c'est-à-dire d'être pris dans cette tension et dans cette épreuve de la réalité et de la pratique. Sachant que par ailleurs, c'est un peu, quand je dis j'essaye d'être marxiste, c'est pas du tout de la fausse humilité, c'est que c'est très compliqué, je trouve. C'est beaucoup plus compliqué d'être marxiste que ce qu'on pourrait imaginer, qu'on n'est pas souvent à la hauteur de cette rigueur et de cette ambition, a fortiori dans le champ de l'art où quand même on n'a pas grand-chose. On n'a quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent, et le peu de choses qu'on a est souvent très dogmatique. Alors on a quelques écrits de Marx et Engels, mais qui ont été canonisés tout au long du XXe siècle, entre autres par la voie lukashienne. Et puis on a des systèmes, mais on est assez démunis, paradoxalement, alors qu'on pourrait penser qu'on a beaucoup. Je crois que c'est la semaine prochaine qu'Isabelle Garot vient. Bon, on lui doit un livre assez décisif de relecture de la question artistique, d'un point de vue marxiste, mais avec une vraie interrogation, non pas du point de vue de l'art, mais du point de vue de ce que l'art peut apporter à la compréhension du marxisme. Donc on est plus dans un renversement, et je la trouve très très éclairante à travailler beaucoup sur notamment la question de l'artiste, beaucoup plus d'ailleurs que de l'art, en tout cas dans la première partie. Voilà, donc on est un peu démunis. Donc je dis marxiste, c'est un peu pour me positionner, pour dire d'où je parle, mais ça veut pas dire grand chose pour être tout à fait honnête, à part un usage polémique pour effrayer quelques collègues à l'université aujourd'hui. Troisième chose, dire que mon travail prend appui sur le théâtre réel. C'est-à-dire que j'essaye de ne pas être dans... Comme on a des systèmes, j'essaye de ne pas fantasmer le théâtre. Voilà. J'essaye de ne pas dire ce que je voudrais. J'essaye de ne pas théoriser mes goûts, ce qui est là aussi une maladie très très forte dans ma discipline. C'est-à-dire qu'on aime des choses et après on explique pourquoi c'est formidable et on leur donne une apparence de rigueur avec des notes de bas de page. Moi je travaille sur des objets pas forcément qui me plaisent, artistiquement ou sensiblement. C'est-à-dire j'essaye d'être à un autre endroit que la théorisation de goût, et j'essaye d'être avant toute chose un spectateur, c'est-à-dire d'y aller entre 3 à 4 fois par semaine, c'est-à-dire d'être aussi perturbé par ce que je vois. Et encore une fois, mais c'est comme les gens qui font de la politique dans leur chambre ou dans leur bureau et qui ont des idées assez fortes sur ce que c'est qu'une émancipation collective, dès qu'on commence à essayer d'organiser cette émancipation collective, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est à peu près ce que j'essaye de faire en tant que spectateur de théâtre, c'est-à-dire d'y aller et de travailler à partir de ce que je vois. Alors le problème, c'est qu'en France, il y a un spectacle nouveau toutes les 2 heures, donc de fait, mon champ de travail est très très parcellaire et pas du tout exhaustive. Je passe à côté certainement d'œuvres puissantes et très importantes qui redéfiniraient ou redéploieraient complètement différemment ce que je raconte. C'est-à-dire qu'il y a une part fondamentale d'aléatoire dans ce que j'essaye de dire, même si j'essaye de voyager, d'aller voir des choses un peu partout. Dernière chose, je travaille sur donc tu l'as dit, sur le théâtre politique. Alors quand j'ai commencé à bosser sur le théâtre politique, j'ai commencé à travailler sur sa vision la plus radicale, la plus détestée, qui est le théâtre militant, old school, années 60, 70, agit-prop, le théâtre qui naît un peu avant 68, le théâtre des années post-68, théâtre immigré, théâtre de femmes, théâtre féministe non mixte, théâtre homosexuel, théâtre paysan, etc. Dans une volonté, enfin on pourrait dire dans des esthétiques du contenu, quoi. Après, j'ai essayé de m'échapper de ça dans un deuxième temps. Et j'avoue que plus j'avance, plus moins je sais vraiment ce que ça veut dire théâtre politique, et plus en tout cas ça me paraît être une catégorie suspecte. J'étais très très assuré il y a 10 ans, et en fait je suis bien obligé de me dire que Je trouve que ce qui est intéressant dans le théâtre politique, c'est que c'est embarrassant. Voilà. C'est embarrassant d'accoler les deux termes. Et que le problème aujourd'hui du théâtre, c'est qu'ils imaginent que c'est très simple d'accoler théâtre et politique, et que ça va de soi. Il y a une sorte de rhétorique du théâtre. Alors si je le fais à très grands traits, à la fin des années 70, début des années 80, quand Mitterrand arrive au pouvoir, que vous avez le grand thermidor culturel qui se met en place, faire du théâtre politique devenait l'insigne, on va dire, d'un côté complètement ringard et démodé, donc plus personne ne fait de théâtre politique, c'est le moment où Chéreau bascule de l'autre côté, enfin, une espèce d'art pour l'art, de réesthétisation du théâtre, ça va durer à peu près jusqu'au milieu des années 90, avec d'ailleurs du resserrement sur on abandonne l'histoire et on va raconter des histoires familiales, des intrigues amoureuses, c'est pas dire qu'il n'y a pas de politique dans les intrigues amoureuses, mais on va les expurger. Et milieu des années 90, mais c'est pas tout à fait un hasard, c'est le renouveau des luttes sociales, 95, le zapatisme et d'autres, vous allez, la catégorie de théâtre politique se voit réennoblie, un peu par magie ou par mystère, et les artistes se remettent tous à faire du théâtre politique. Alors il y a mille mots, hein, ils font du théâtre citoyen, beaucoup d'ailleurs à Saint-Denis, c'était Nordet qui avait lancé son théâtre citoyen, bon, tout ça étant un peu équivalent, avec une sorte de soupe théorique qui explique que le théâtre est né à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc ça a un lien avec la démocratie, la politique, un peu ontologique. Bon, voilà. On a Denis Guénoun, qui est par ailleurs quelqu'un d'assez formidable, mais qui explique que le théâtre est politique parce que c'est le lieu d'un assemblement. Bon. Un stade de foot aussi, donc on ne voit pas bien à quel endroit se joue la singularité ou la spécificité ou le propre politique, mais ça devient en quelque sorte une injonction à faire du théâtre politique, et il n'y a pas un dossier ou très peu de dossiers qui sont déposés au ministère qui disent pas « nous on fait du théâtre politique ». C'est-à-dire qu'on se retrouve pris exactement dans le faisceau contraire des années 80 où il fallait se désintéresser de la question sociale et la question politique parce qu'elle était forcément pourvoyeuse de réflexions ringardes et d'esthétiques dépassées. Dans les années 90-2000, si vous n'êtes pas politique, et vous avez Stéphane Braunschweig, le directeur de La Colline, qui monte les trois sœurs de Tchekhov en disant « j'y ai vu le CPE », enfin, une espèce comme ça de concaténation d'événements qui n'ont rien à voir, pour faire entendre que tout est bon, que tout est politique. Ce qui fait que, évidemment, en travaillant sur le théâtre politique, j'ai bien été obligé d'apercevoir que ce signifiant de politique était un signifiant complètement flottant et complètement politique. C'est-à-dire que politique, c'est un mot, alors je vais beaucoup parler de lui, mais comme dirait Jacques Rancière, c'est un mot de la mésentente, quoi. C'est-à-dire qu'on n'entend pas la même chose. Et que se mettre d'accord sur le mot politique, c'est déjà une activité politique. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même intérêt derrière ce qu'on met, derrière le sens qu'on met dans le mot politique, il y a des intérêts divergents, contradictoires, voire même antagoniques. Ce que Hollande appelle la politique, c'est pas moi ce que j'appelle la politique, etc., etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire teinter le mot politique dans théâtre politique, dans l'expression. On entend bien que c'est plus un mot embarrassant, que c'est pas un mot définitivement clos, que c'est un mot ouvert, ouvert notamment à la polémique. Alors, par rapport au sujet subjectivité, subjectivation, subjectivité critique, ce qui est très étonnant, la première remarque que je pourrais faire, ce qui est très étonnant dans le domaine du théâtre, c'est que le discours est empli du terme de émancipation. Je ne connais pas un artiste qui ne dit pas qu'il ne veut pas émanciper son public. Tout le monde est dans la subjectivité, et alors on a un fétichisme du mot de la critique, qui est, ça n'est que des œuvres critiques. Quoi. On est dans une surabondance d'œuvres critiques qui ne s'interrogent jamais sur le type de critique qu'elles produisent ou le type de critique qu'elles essayent de penser. Mais on est, en quelque sorte, il y a une... À partir du moment où c'est du théâtre, c'est quasiment implicite. Quoi. On fait œuvre critique, on fait œuvre de procédure de subjectivation, on s'adresse à des sujets, bon, une espèce comme ça d'hypertrophie de ce type de discours. Ce qui, à mon avis, je dis ça en passant, explique le succès du comité invisible de Tikkun, de ce qu'on appelle les appellistes aujourd'hui, dans le milieu culturel. C'est-à-dire qu'à nos amis, leur dernier livre, c'est le best-seller des théâtres aujourd'hui, pas un théâtre subventionné qui ne vous vend pas du comité invisible, parce qu'on y retrouve cette sorte de dramatisation de la subjectivité, même d'exacerbation ou d'emphase de la subjectivité, le pur volontarisme, un anti-ouvriérisme assez primaire, fin de la lutte des classes, s'affrontent en quelque sorte le parti imaginaire et l'empire. Enfin, on retrouve un certain nombre de catégories qui sont complètement maniables, assez, alors de manière beaucoup plus confuse que Julien Coupa, même si c'est pas lui qui a écrit le livre, on n'a pas le droit de le dire, mais que, beaucoup plus confuse, beaucoup plus spontanément incorporée ou appropriée. Mais voilà, à mon avis, cette récurrence de la systématicité de la critique et de la subjectivité explique en quelque sorte aujourd'hui que les artistes politiques sont quasiment tous, hélas, ticounesques. Alors, je vais faire en gros trois grosses remarques sur cette question, et puis de toute façon, l'idée, c'est plus de discuter. La première chose que je pourrais dire par rapport à sujet, subjectivation, subjectivité, c'est que, me semble-t-il, le théâtre politique, il naît au XXe siècle. Avant, il y a des formes de théâtre qui essayent d'être politiques, qui sont politiques, peut-être Hugo est politique, peut-être Diderot. Bon. Mais le premier à vraiment conceptualiser théâtre politique, c'est un metteur en scène communiste des années 20, allemand, Erwin Piscator, qui essaye d'en penser la validité. Ce qui d'ailleurs, en soi, est plutôt cocasse, parce que c'est le premier à mettre des écrans sur scène, et en 1925 quand même. Donc quand n'importe quel performeur aujourd'hui est absolument persuadé d'être hype et à l'avant-garde en mettant deux écrans, c'est quand même un metteur en scène bolchevique qui a fait ça dès 1925 pour les besoins de la cause bolchevique en 25. Si on regarde comment évolue ce théâtre en essayant de prendre des grandes dates symptomatiques, il y a une chose qui me frappe par rapport à cette question de la critique, de la subjectivité et des subjectivations, c'est que c'est un théâtre, me semble-t-il, qui est quasiment univoquement ou intégralement organisé autour de la notion de prise de conscience. Il s'agit, le projet du théâtre, le projet ou la fonction de la représentation, c'est la prise de conscience. Avec ce qui va être très très flagrant depuis une quarantaine d'années, c'est à mon sens, pour le coup, une vraie fétichisation et une vraie réduction de ce que la prise de conscience peut signifier. Alors si on passe très vite sur trois dates, on pourrait dire que le projet piscatorien dans les années 20, qui est un projet d'ailleurs assez gigantesque quand on y réfléchit. L'enjeu de Piscator, c'était de mettre sur scène ou de mettre en scène la totalité sociale. De considérer que l'immense problème du théâtre, c'est qu'il était le lieu du microcosme et qu'il fallait inventer dans un espace réduit et métaphorique, la scène de théâtre, la rencontre entre microcosme et macrocosme. Et d'ailleurs, il a un projet qui est de mettre en scène une pièce qui irait des révoltes de Spartacus jusqu'à la Première Guerre mondiale, ce qui fait quelques siècles, en l'espace de 2h30, en essayant de montrer la mécanique de l'histoire, les interactions à la fois de classe et systémique. Bon, il n'arrivera pas à monter le projet, il montera juste le quelques années avant 1914, un spectacle qui s'appelle Trotz Alledem, qui a été un spectacle par ailleurs très important. Mais l'enjeu de Piscator, c'est comment est-ce que le théâtre peut être le lieu de la révélation ou du dévoilement des systèmes, des structures, des dynamiques internes ou externes d'ailleurs, qui animent le mécanisme historique et le mécanisme social. C'est-à-dire, en gros, donner une forme artistique à la question de la totalité. Pour le dire différemment, c'est ce que dira un théoricien, Bernard Dort, ce qu'a essayé de faire Piscator, c'est mettre l'histoire sur scène. Avec des grandes épopées, il va faire même ou des grandes abstractions, il va faire une pièce entière dont le personnage principal sera le pétrole, c'est de représenter les aléas du pétrole, comment est-ce qu'on lui donne une forme, et c'est pour ça qu'il va avoir recours à toute une électrification du théâtre. Faut pas oublier que Piscator, années 20, on est au plein moment où il y a le boom du cinéma, à ce moment-là, et du cinéma en tant que forme concurrente de la politique. On sait que les bolcheviques ont beaucoup plus plébisciter le cinéma que le théâtre, même si octobre 17 a été une date importante dans l'histoire du théâtre, les années qui suivent avec Meyerhold et un certain nombre d'expérimentations, mais c'est le cinéma sur lequel il mise en tant qu'art de masse, et vous avez une concurrence à qui va gagner, qui va avoir le plus grand impact, on va dire, à une échelle de masse ou à une échelle, ou en tout cas vis-à-vis des milieux populaires, et Piscator participe de cette surenchère, et lui ce qu'il dit, c'est que la cause passe avant tout, et que le théâtre en tant qu'espace clos, en tant qu'espace fermé, en tant que drame au sens hegelien, doit être confronté ou percuté par l'invention de nouvelles technologies, et que pour raconter l'histoire, on a besoin de mettre des écrans sur scène, on a besoin d'électrifier les scènes, c'est le premier à mettre un tapis roulant pour figurer, bon, alors tout ça, il bidouille, il raconte que il invente un tapis roulant pour présenter le brave soldat Chevet qui marche à rebours de l'histoire, et puis le jour de la générale, ils s'aperçoivent que le tapis roulant fait tellement de bruit qu'on n'entend rien, enfin, bon. Donc il y a comme ça une espèce de bidouille et de bricolage. Par ailleurs, son livre, Le théâtre politique, qui a été édité à l'Arche, c'est un livre bouleversant, quoi. C'est l'histoire d'un type qui n'arrête pas de faire son autocritique. C'est-à-dire, il raconte comment il tente des choses, ça marche pas, comment c'est un théâtre absolument sommé de répondre à différentes conjonctures. C'est un, il invente un théâtre prolétarien en 1918-1920, et puis après un théâtre, ce qu'il appelle le cabaret rouge, puis après le théâtre épique, puis après le théâtre antifasciste. Il essaye de bouger au gré de la, des modifications et des mutations internes de l'Allemagne des années 20, avec la montée des fascistes. Et puis en 1933, il fait partie des, son livre fait partie des premiers livres qui subissent les autodafés, et donc il fuit quelques mois en Union soviétique. Il s'aperçoit que la réalité n'est pas tout à fait celle qu'il préfère, donc il part aux États-Unis, créer une école d'acteurs studio, et il reviendra dans les années 60 un peu plus tard. Donc première chose, le théâtre politique tel qu'il se fonde, il a pour tâche de venir dévoiler la totalité sociale, c'est-à-dire de venir donner une visibilité à l'invisibilité. Bon. Comment est-ce qu'on rend visible ce qui ne se voit pas, les structures qui prédéterminent ou qui organisent structurellement la société. Le deuxième grand nom et la deuxième grande étape, c'est évidemment Brecht. On va être dans à peu près le même principe, un principe de dévoilement, un principe de révélation, un principe de faire advenir sur le plateau ou dans l'espace scénique l'invisible social. La différence, c'est que ce qui intéresse Brecht, c'est pas tant la totalité que... Bon, Brecht, c'est un dialecticien, hein, donc le, ce qui l'intéresse, c'est comment est-ce que... Si on regarde bien le théâtre de Brecht, à deux, trois exceptions près, c'est pas du tout un théâtre d'actualité, contrairement au théâtre de Piscator. C'est beaucoup plus un théâtre de parabole, c'est-à-dire c'est un théâtre qui fait des grands détours pour parler de, d'Hitler. Il parle d'Arthur Howe, qui fait un gang de chou-fleurs aux États-Unis. Bon. Et on travaille sur des vis-à-vis ou des évocations. Donc l'enjeu pour Brecht, c'est pas du tout la... c'est pas du tout l'actualité, même si elle s'entend vis-à-vis. C'est beaucoup plus de former... ce qu'il appelle, c'est de former le spectateur à la grande méthode. La grande méthode, c'est la méthode hegeliano-marxiste. Il a été l'élève de Karl Korsch et il est complètement influencé par, par cette école. Et donc, l'enjeu, c'est que le spectateur apprenne à repérer les contradictions sous-jacentes à toute harmonie, à toute unification, et donc de déguiser le regard dialectique et de faire de chaque spectateur un dialecticien hors pair. Et il va même aller très loin, parce que quand il va inventer une forme de théâtre qui s'appelle les Lehrstücke, donc qui sont très mal traduits en français par, par pièces didactiques, qui sont en fait des pièces d'apprentissage, c'est des pièces qui ne sont pas faites pour être vues, c'est des pièces qui sont faites pour être jouées. C'est-à-dire, Brecht dit, le matin, le danseur, il fait de la barre, le chanteur, il fait des vocalises, et ben, il n'y a pas de raison que le militant ne fasse pas de la dialectique. Donc il écrit des pièces, et l'idée, c'est que le militant joue tous les personnages, et travaillant sur tous les personnages, comprend les intérêts contradictoires d'une situation. Il y a une pièce très connue qui s'appelle La Décision, qui raconte... en Chine, quatre jeunes camarades qui sont convoqués par le parti, puisqu'il y en a un qui a mis en, en danger la cellule et qui donc va être condamné, condamné à mort, exécuté. Et donc vous jouez tous les personnages et vous prenez acte que l'intérêt supérieur du parti exige que vous fassiez, vous soyez sacrifié sur l'autel de la Révolution mondiale. On a vu dans cette pièce une préfiguration du stalinisme, je crois pas, mais peu importe. L'enjeu, en tout cas, encore une fois, c'est d'exercer là le militant. Et donc, c'est pas du tout des pièces pour les acteurs, c'est des pièces pour les différents, pour les militants. Alors après, elles vont être jouées, elles vont être représentées, c'est-à-dire elles vont être dévoyées ou dénaturées. Ce qui intéresse Brecht, en quelque sorte, je prenais l'exemple tout à l'heure en disant Dort a expliqué que Piscator a mis l'histoire sur scène. Brecht, il va mettre l'histoire dans la salle. Voilà. Brecht, il met l'histoire dans la salle, c'est-à-dire qu'il oblige chaque spectateur à se penser comme un historien. C'est-à-dire à considérer qu'il est pris entre un déjà plus et un pas encore, et à se penser comme un être historique, et comme un être historique, c'est-à-dire un être confronté à des contradictions singulières, et donc arriver à repérer ces contradictions. On a un texte très important qui va un peu structurer ou formaliser la question de la prise de conscience, et notamment chez Brecht, c'est un texte d'Althusser, sur lequel on revient un peu, alors à part en études théâtrales, parce qu'on a tellement de philosophes qu'on fait des textes sur Brecht que dès qu'on en a un... qui est un texte qui est au milieu de Pour Marx, donc un texte de 64-66, hein, je crois qu'il est écrit en 64 et le livre paraît en 66, qui est un texte tout à fait important où il assiste à une représentation de George Strehler et il en tire une réflexion sur ce que c'est que le théâtre brechtien, qu'il met évidemment en lien avec sa critique de l'idéologie. On est encore dans le Brecht, dans le Althusser scientiste, hein, avec il est possible d'adopter une position extérieure à l'idéologie, qui est une position du savoir, etc. Mais ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est un texte qui a été très important dans l'histoire de l'art. Godard s'en est. Une partie de l'œuvre cinématographique de Godard est complètement influencée par ce texte. Vous avez vu La Chinoise, il y a plein de références. Jean-Pierre Léaud, à un moment donné, fait une parodie, enfin, un usage des dernières lignes de ce texte qui est très connu, qui est « Je me retourne et je revois le spectacle en me demandant si ce n'est pas le spectacle inachevé qui se poursuit en moi, bon, etc. » Pourquoi ce texte est important ? Parce que ce qu'essaye de faire Althusser dans ce texte-là, c'est montrer que le théâtre est une puissance de prise de conscience, une prise de conscience tout à fait étonnante ou singulière, c'est-à-dire qu'elle a pour projet de venir modifier le spectateur et de lui faire accomplir dans la vie sociale ce que le spectacle a fait germer en lui pendant la représentation. En quelque sorte, le débouché de l'activité spectatorielle, c'est la vie politique et militante. Alors c'était vrai chez Piscator, il y avait plein de représentations de Piscator où les spectateurs finissaient le point tendu en chantant l'inter et en partant en manif immédiatement, ce qui fait certains jours un peu rêver. Mais on était dans des périodes d'affrontement de classe un tout petit peu plus violentes qu'aujourd'hui, en tout cas qu'hier. Donc on était dans une sorte d'exacerbation du rapport de classe. Chez Brecht, l'idée, c'est pas du tout un théâtre de la fusion de la salle comme chez Piscator. On est beaucoup... Brecht dit, hein, moi, mon enjeu, c'est de diviser la salle. En bon dialecticien, c'est de diviser les spectateurs les uns entre les autres, de leur révéler les intérêts sous-jacents et contradictoires qui peuvent les animer, mais c'est aussi de révéler en chacun les propres contradictions qui nous organisent. Nous avons des intérêts divergents qui peuvent rentrer en confrontation, en nous s'affrontent le punk et le conservateur, le petit bourgeois et le révolutionnaire, et de travailler aussi sur ses propres contradictions internes. Donc le projet de Brecht, c'est de constamment fonctionner sur la division. Ce texte d'Althusser, encore une fois, il me semble très important parce qu'il vient en quelque sorte établir de manière ultra sophistiquée un des mécanismes qui va devenir un des mécanismes structurants de l'activité théâtrale politique, qui est je vois un spectacle, je prends conscience, je deviens un militant, ou je deviens un être critique par rapport à la réalité sociale. Une espèce de miracle. Claudel, c'était derrière un pilier. Bon, bah, l'idée, c'est que le nouveau militant, c'est le théâtre qui vient le toucher par la grâce d'une révélation de quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Troisième grand modèle, et je m'arrête là sur les trois grandes dates, c'est un metteur en scène qui s'appelle Peter Weiss, auteur important dans les années 60, militant lui aussi marxiste, qui va inventer ce qu'on appelle le théâtre documentaire. Alors le théâtre documentaire, c'est pas du tout ce qu'on a aujourd'hui qui est du théâtre documenté, mais ce qui est quand même le minimum quand on travaille sur quelque chose. Le théâtre documentaire, l'idée, c'est qu'on travaille sur que des documents. C'est-à-dire que le spectacle, c'est pas la mise en scène d'un document, c'est la mise en scène contradictoire de documents antagoniques afin de révéler le jeu de discours, le jeu de manipulation, notamment médiatique, par la domination, qui nous induit en erreur. Et c'est évidemment dans la confrontation de matériaux de différents... Alors, il y a une pièce très connue sur le Vietnam, notamment, qui s'appelle « Discours sur le Vietnam », mais il fera d'autres pièces sur la guerre en Angola de l'armée portugaise, le colonialisme portugais en Angola. Enfin bon, il y a comme ça un certain nombre de pièces, une pièce sur Hölderlin aussi tout à fait étonnante, sur Hölderlin comme ancêtre du communisme. L'enjeu, c'est de travailler sur des textes réels, sur des documents qui peuvent être des documents falsifiés, ceux de l'ONU, etc., et de les mettre en vis-à-vis avec d'autres types de documents. Le projet, c'est de faire advenir sur le plateau la vérité. C'est-à-dire qu'on est dans l'idée qu'il existe une vérité. Et donc, pareil, on est exactement dans la même procédure. Le spectateur confronté au dévoilement de la vérité prend conscience qu'il a été jusqu'ici manipulé, qu'il a été jusqu'ici trompé, et de cette tromperie arrachée au règne de l'illusion, du leurre et de la tromperie, devient le militant héroïque de l'anti-impérialisme. Ça, c'est, on va dire, les modèles un peu standards, un peu... paradigmatique du théâtre politique. Alors aujourd'hui, on assiste à des formes complètement dégradées de ça, parce que, enfin bon, Piscator, Brecht, passe pas n'importe quoi quand même. Puis là, je les ai fait en 3 minutes, mais enfin, c'est des réflexions un tout petit peu plus consistantes que ce que je suis en train de faire. On assiste à des formes complètement dégradées de ça, avec un revival extrêmement fort du sartrisme dans le théâtre. Alors Sartre est quelqu'un qui, comme beaucoup de philosophes quand ils se mettent à faire du théâtre, je pense à Alain Badiou, ne comprend à peu près rien au théâtre, mais a beaucoup d'idées sur ce que doit être le théâtre. Et Sartre a beaucoup d'idées, et d'ailleurs, relire les entretiens de Sartre aujourd'hui, c'est tout à fait étonnant, comme il ne comprend rien à Brecht, il tombe complètement à côté, il l'attaque, bon, il s'attaque à Villard, enfin bon, il est passé, et puis il fait un théâtre qui est un théâtre absolument bourgeois dans ses formes, dans ses... Bon. Et la seule chose qu'il fait, c'est qu'il leur donne un contenu de classe, si possible, comme dirait Merleau-Ponty, ultra bolchevique à certains moments, à d'autres moments. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde bien, chez le théâtre de Sartre, c'est un théâtre du cas de conscience. C'est un théâtre où des personnages, mais on a la même chose chez Camus, hein. C'est un personnage où on est un théâtre où on n'est pas tant dans la politique que dans le cas de conscience. Des personnes, c'est les mains sales, quoi. Est-ce qu'on doit se salir les mains pour faire? On est pris dans des cas de conscience. Et ce qui m'intéresse dans ce cas de conscience, quand je dis aujourd'hui on a un retour du Sartre, on n'a pas du tout, personne ne monte Sartre, hein, ou très peu de gens montent Sartre, mais on a un retour de ces problématiques-là, c'est-à-dire des recouvrements de la question politique par des cas moraux, par des prises de conscience, mais conscience étant à prendre ici dans une signification, encore une fois, extrêmement morale. Pour donner des exemples typiques, c'est des pièces aujourd'hui de Mnouchkine, par exemple, du Tas du Soleil, où on a des personnages sur la petite bonté, comment être bon dans un monde qui ne l'est pas. Bon. Sauf que chez Brecht, c'est une question de contradiction sociale, on ne peut pas être bon dans un monde qui ne l'est pas. Et la pièce de Brecht sur cette question-là, Jeanne des Abattoirs, se termine par « Seule la violence aide là où la violence règne », c'est-à-dire que ce sera classe contre classe, ce sera des affrontements, etc. Chez Mnouchkine, c'est « La petite bonté désarmera le monde », quoi. Enfin, on est parti à un autre moment. Et donc le théâtre, c'est l'apprentissage de la petite bonté, donc on va vous montrer sur scène des travailleurs immigrés qui fuient, on va vous montrer Sangatte, etc. Ça fonctionne sur des protocoles compassionnels extrêmement forts, avec comme ça une manière de saisir le spectateur, et l'idée c'est qu'ils deviendront des électeurs de gauche après avoir vu, des électeurs de gauche humanistes, lecteurs de Télérama, une fois qu'ils auront vu les spectacles du Théâtre du Soleil. L'autre forme dégradée de ce type de théâtre moralisant, compassionnel, mais qui encore une fois se donne pour mission de venir révéler quelque chose que le public ne sait pas et de fonctionner sur la modalité de la prise de conscience, c'est le discours extrêmement roublard d'un des plus vieux auteurs contemporains aujourd'hui, qui s'appelle Michel Vinaver, qui est très très à la mode dans les milieux universitaires parce qu'il est formidable, parce qu'il a fourni... Il a fourni l'outillage pour qu'on arrive à l'analyser. C'est-à-dire qu'il nous a expliqué comment parler de lui. Donc les collègues un peu paresseux, c'est assez formidable parce qu'on a la clé de 12 qui permet de parler de lui avec ses propres outils. Donc on a des études vinavériennes sur Vinaver qui répètent logoréiquement ce que Vinaver leur a dit, à savoir que c'était une écriture du neutre, une écriture de l'impartialité, une écriture du surplomb qui ne prend pas parti, etc. Et donc, mais on a eu ça sur d'autres auteurs aussi. Mais bon, Vinaver étant le plus fort, Vinaver, c'est tout à fait intéressant quand même de rappeler que la nuit, il écrivait des pièces gauchistes, n'exagérons pas, des pièces de gauche. Il faut vraiment chercher loin la gauche, mais de temps en temps, on la trouve. Mais la journée, il était l'un des patrons les plus hargneux, patrons de Gillette International. Et c'était, paraît-il, un redoutable négociateur avec les syndicats, et que c'était quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de mal avec le mouvement social dans ses propres entreprises qu'il dirigeait. Il y a un livre qui vient de sortir, j'ai commencé à lire, qui est assez intéressant, sur une grève à laquelle il était confronté dans sa vie de patron. Et la contradiction est assez jolie quand on sait ce qu'il écrivait au même moment, La Nuit, qui était édité à l'Arche, joué sur toutes les scènes subventionnées. Vinaver, ce qui est intéressant, c'est que lui, il fonctionne sur un autre rapport, qui n'est pas du tout de nous dire « je viens apporter la vérité, je viens révéler le système, la totalité, l'histoire, la vérité ». Non, lui, il dit « je viens révéler le doute ». Ce qui est une manière très très forte. Hein. C'est très malin de venir dire « je ne suis porteur d'aucune certitude ». Mais je viens révéler à un public, et évidemment un public de bœufs pétri de certitudes, je viens lui apporter l'ambiguïté. Quoi. Voilà. Et donc on fonctionne exactement sur le même schéma, sauf qu'on n'apporte pas la même chose. L'idée, c'est de venir déstabiliser le spectateur dans sa certitude, de venir lui apporter l'angoisse et l'ambiguïté qu'il n'aurait pas dans sa réflexion. Et que le spectateur, saisi face à l'ambiguïté du monde que lui révèle Michel Vinaver, aurait dans sa vie une pensée beaucoup plus mesurée, beaucoup plus crantée à la réalité des choses, à l'ambivalence des formes et des formes et des phénomènes. Tout ça pour dire que cette modalité-là de la prise de conscience, elle fonctionne quand même sur l'idée assez massive et très majoritaire dans le théâtre politique, qu'il y a quelque chose à dévoiler. Il y a quelque chose à dévoiler, il y a quelque chose du réel qui s'absente du regard, et que la tâche de l'œuvre politique, c'est de venir dévoiler ce qui nous est caché. Je fais une très courte parenthèse, mais on pourrait travailler, j'essaye de le faire, mais je n'ai pas bien le temps, mais on pourrait travailler sur tout un autre ensemble d'œuvres qui, au contraire, se donnent pour tâche de revoiler le monde, en considérant que la liberté, ce n'est pas le dévoilement. La liberté, c'est le revoilement. Que c'est pas de moins d'images dont on a besoin, c'est de plus d'images, encore une fois. On pourrait dire, moi je suis très sensible à une formule de Balibar, à une formule de Balibar, pas à deux, mais à une, où Balibar dit vouloir supprimer l'apparence, c'est vouloir supprimer le rapport social. Et il y a une mystification très forte dans le monde du théâtre, l'idée que les apparences, c'est pas bien, ce qui est très troublant quand c'est quand même un art du leurre, un art du semblant, un art de l'apparence. Et donc l'idée, c'est qu'on va aller derrière les apparences et montrer le monde dans son authenticité, dans sa nudité. Et il y a tout un autre courant qui, à mon avis, pourrait être assimilé, même s'ils n'en ont pas forcément la connaissance, à ce qu'on a appelé la critique de l'économie politique, aux analyses de Rubin, à une partie du jeune Lukács et autres, travaille sur la réification et le fétichisme, qui au contraire dit, c'est pas de moins d'images dont on a besoin, c'est au contraire d'une inflation d'images, parce que la liberté, elle se joue en sautant d'une image à une autre, et précisément pas en dégrafant les images. C'était juste une parenthèse. Donc on a un premier, et encore une fois, ce modèle du dévoilement, c'est le modèle absolument massif, et ça fonctionne sur l'idée quand même que le spectateur est un être à qui il manque quelque chose, quoi. Il lui manque un savoir au spectateur. Et que heureusement qu'il a la scène pour venir lui apporter le savoir qui lui manque. Heureusement qu'il a les artistes. Alors je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous me voyez arriver avec des très très gros sabots. C'est évidemment une part de la critique que va faire Jacques Rancière à ce type de théâtre dans un livre sur lequel je vais passer quelques minutes, qui s'appelle « Le spectateur émancipé », qui est un livre problématique et un peu ennuyant, un peu embarrassant. Juste une chose, le modèle d'adresse du spectateur, c'est un modèle qui est un modèle complètement infantilisant. C'est-à-dire qu'en gros, le plateau est l'espace d'une pédagogie, même si c'est une pédagogie du doute et de l'ambiguïté à la Vinavert, même si c'est une pédagogie qui est dans la déni de la pédagogie, le plateau vient compléter ce qui manque au spectateur. C'est pas le tout ce que je suis en train de dire du théâtre politique, il y a tout un autre théâtre dont je parlerai pas, tu citais Dardot ou Laval, je sais plus lequel des deux, qui est un théâtre qui, lui, fonctionne à contrario, qui se veut politique en tant qu'il serait une puissance de transgression et de sidération. C'est des œuvres comme Castellucci, comme Rodrigo Garcia, qui est un théâtre qui, lui, on pourrait dire, si je caricature, on pourrait y revenir, qui n'est pas tant dans l'infantilisation de son spectateur que dans son management. Voilà, il s'agit de manager les émotions du spectateur, de savoir ce qu'on va produire en lui. Et c'est tout à fait intéressant parce qu'il n'est pas du tout dénué de l'idée d'apporter un savoir au spectateur. Quand on écoute les textes ou quand on lit les textes de quelqu'un comme Yann Fabre ou Castellucci, ils disent qu'ils viennent apporter quelque chose à leur spectateur. Ils viennent lui apporter la connaissance de sa propre finitude, de la précarité de la vie, du fait que tout est incertain, du fait que... Bon, tiens, comme si les gens ne le savaient pas. Mais donc, le plateau, là, encore une fois, se dote d'un savoir qui manquerait au spectateur. Le spectateur serait un être plein qu'il faudrait, en quelque sorte, venir choquer, transgresser, partir à l'assaut de son spectateur afin de lui révéler la fragilité de sa propre existence ou l'évidence de sa finitude. Je m'attarde pas là-dessus, on pourra y revenir, mais encore une fois, c'est le même modèle. Hein, c'est je vois un spectacle de Castellucci. Ça dépend des spectacles, parce que c'est compliqué, Castellucci. Mais je vois un spectacle de Castellucci ou Yann Fabre, je suis saisi et sidéré par ce qui m'est montré, et je prends conscience, encore une fois, je prends conscience d'une chose que je ne savais pas auparavant, et ça vient modifier la totalité de mon existence. Alors, Rancière, en 2009, je crois, ou 2007, sort Le spectateur émancipé. Pour le dire très vite, moi, c'est un livre... En fait, j'aime énormément ce que fait Rancière, et la première fois que j'ai lu Le spectateur émancipé, je trouvais ça nul. Je suis arrivé en cours, j'ai même dit aux étudiants, ne perdez pas de temps, aucun intérêt. Et puis, bon, j'essaie quand même un peu d'être honnête, j'étais obligé de me rendre compte que quand même, c'était un livre qui me poursuivait un peu. Donc l'année d'après, j'y ai passé tout un séminaire, et puis ça fait 3 ans, on a travaillé 3 années de suite sur cet ouvrage. Et il est évidemment beaucoup plus compliqué que ce que j'avais vu au premier abord. Je pense que ce qui m'avait... ce qui ne me plaît pas chez Rancière, c'est les exemples qu'il donne, qui sont, je trouve, des exemples artistiques complètement mainstream. Et ce qu'il aime, c'est juste... Bon, et lui, je trouve qu'il théorise beaucoup ses goûts et qu'il a une manière de tordre l'œuvre pour qu'elle rentre à l'endroit de son système, même s'il dit qu'il ne veut pas faire système. Bon, mais peu importe. Et puis, quand même, il défend derrière une esthétique sous-jacente. C'est les œuvres de Bellatar, de Pedro Costa, qui sont en cinéma des très grandes œuvres. Mais voilà, à mon avis, il y a quelque chose de très univoque dans le choix de son corpus. Qu'est-ce que dit Rancière très vite? Bon, une première chose qui est assez intéressante, mais ce n'est pas l'objet, c'est que l'essentiel du théâtre politique s'est donné pour tâche de mettre en mouvement le spectateur, en considérant que le spectateur était un être passif et qu'il fallait le réveiller. Reconduisant par là tout un vocabulaire, d'ailleurs, alors il ne le dit pas, mais on peut le retrouver, tout un vocabulaire de la stigmatisation de la passivité. et qui est assez intéressant parce que c'est le même vocabulaire qu'on retrouve dans les groupes politiques, notamment d'avant-garde, mais qu'on va retrouver dans certains textes de Frantz Fanon, « Tout spectateur est un lâche ou un traître », qu'on va retrouver dans les textes de Guy Debord, dans « Ingiruminus nocte », il y a un développement contre les spectateurs qui sont des larves apathiques et amorphes. Bon. Et on sait, Rancière, l'une partie de son œuvre, c'est précisément de venir dire que le partage entre passivité et activité est un partage politique. Et la stigmatisation de la passivité est d'abord un partage historique. Il n'en a pas toujours été le cas. L'oisif a été à un moment donné celui qui était valorisé. Alors dans une société néolibérale comme la nôtre, il faut au contraire montrer qu'on a un agenda très très pris, qu'on est absolument suractif et que bon, on est des winners dans la guerre sociale et dans la guerre de chacun contre tous à chaque instant. Mais donc ce qu'essaye de montrer Rancière, c'est que précisément une partie de l'émancipation, pour reprendre le terme que tu employais tout à l'heure, se joue quand vient de se brouiller la frontière entre passivité et activité. Quand précisément les choses ne sont pas aussi claires et qu'on s'aperçoit que la personne que l'on imaginerait passive est au contraire une personne active. Et on sait bien, enfin bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure, que quelqu'un devant sa télé, c'est aussi quelqu'un qui est actif, qui fait des montages. Alors, en partie,